Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, toi Jésus.
Bonsoir à vous tous, bienvenue à l'heure de cette émission Études sur Cantique. Permettez que je puisse vous rappeler que dans cette émission, nous avons l'habitude de prendre un chant, de choisir une chanson et nous essayons de comprendre la chanson au travers les Écritures. Nous répondons encore présent en ce jour et là, nous allons étudier un chant en anglais, une chanson en anglais qui est intitulée One Life. Je vous laisse écouter la chanson et après, on vous dira qui l'a chanté.
Believe within your plan and the purpose for
Life, c'est la chanson que nous allons étudier dans l'émission de ce jour. Alors, avant d'en arriver là, nous allons essayer de découvrir les paroles de la chanson et après on va revenir à celui-là qui a chanté la chanson. Alors, on est avec l'autre Laurent. L'autre Laurent, One Life, les paroles. Bonsoir d'abord. Bonsoir,
oui, bien-aimé.
Oui, One Life. Les paroles en anglais et également on va essayer de traduire, on va avoir la traduction en français. On y va avec l'anglais.
Bien, le premier couplet de la chanson dit ceci: Take me, Lord, and use me, Lord, as an instrument of love. Let me be acceptable, let me be pleasing to you. There's one reason I am alive, and that is to live for you. Nothing else is worth the while, nothing else is valuable. Le refrain dit ceci: Lord, I want to know you more. Lord, I want to see your face. Lord, I want to do your will. Lord, I want to live for you. I have just one life to live, and it must glorify you. I am yours, O Lord, in time and for all eternity. Deuxième couplet: Help me not to waste my life on those things that matter not. Let me live within your plan and your purpose for me, Lord. All I have is yours to use, and where you sent me, I will go. It's no longer I that live, for me to live is Christ. Troisième couplet: Lord, I have made up my mind to follow you to the end. I have taken up the cross. I've got no other choice. Rid me, Lord, of all those things that make me unqualified as a vessel in your hands, so I can be useful, Lord. Le refrain vient encore: I want to know, Lord, I want to know you more. Lord, I want to see your face. Lord, I want to do your will. Lord, I want to live for you. I have just one life to live, and it must glorify you. I am yours, O Lord, in time and for all eternity. I have just one life to live, and it must glorify you. I am yours, O Lord, in time and for all eternity. En français, on peut avoir comme tradition: prends-moi et utilise-moi, Seigneur, comme un instrument d'amour, que je sois acceptable, que je sois agréable à toi. Je n'ai qu'une seule raison de vivre, et c'est de vivre pour toi. Rien d'autre n'en vaut la peine. Rien d'autre n'en vaut la peine. Le refrain dit: Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je n'ai qu'une seule vie à vivre, et elle doit te glorifier. Je suis à toi, Seigneur, dès ce moment et pour toute l'éternité. Deuxième couplet: aide-moi à ne pas gâcher ma vie sur des choses inutiles. Laisse-moi vivre selon ton plan et ton dessein pour moi, Seigneur. Tout ce que j'ai est d'être utilisé par toi et j'irai partout, tu m'enverras. Ce n'est plus moi qui vis, pour moi, Christ est ma vie. Le troisième couplet dit, Seigneur, j'ai pris ma décision de te suivre jusqu'à la fin, je me suis chargé de ma croix, je n'ai pas d'autre choix, débarrasse-moi de toutes ces choses qui me disqualifient comme un vase dans tes mains, alors je pourrai être utile, Seigneur. Notre refrain qui vient, Seigneur, je veux te connaître davantage, Seigneur, je veux voir ta face, Seigneur, je veux faire ta volonté, Seigneur, je veux vivre pour toi, je n'ai qu'une vie à vivre et elle doit te glorifier. Je suis à toi, Seigneur, dès ce moment et pour toute l'éternité. Je n'ai qu'une vie à vivre et elle doit te glorifier. Je suis à toi, Seigneur, dès ce moment et pour toute l'éternité.
En écoutant cette mélodie, cette chanson-là, c'est des mots simples qu'on constate, mais c'est des mots qui sont bien pesés dans le chant. Hein. L'autre Laurent, hein, tu vas en convenir avec moi. C'est des paroles très, très, très simples. Moi, je vois la chanson sous l'angle de un chant de consécration et qui, quand tu l'écoutes sérieusement, ça peut te conduire à la prière. Ça peut te conduire à la prière. Alors, l'autre Laurent, qui a composé ce chant, One Life?
La chanson est l'œuvre de Dr. Paul Enenche, qui est un médecin d'abord, et ensuite a été appelé au ministère à plein temps, et il est le pasteur principal du Centre international de l'évangélisation, Dunamis, dont le siège est à Abuja, dans la capitale fédérale du Nigeria. Il est marié à Becky, qui est aussi médecin, et ils ont 4 enfants. Donc c'est une famille de chrétiens engagés qui, parallèlement à leurs activités, chacun pour sa part, bien entendu, sont impliqués de plein pied dans l'œuvre de Dieu, avec leur participation, chacun à un niveau donné, dans les différents départements de l'œuvre. Le père et la mère étant les responsables premiers du centre, hein, de leur église. Voilà ce que je peux dire pour l'instant à propos de l'auteur.
Très bien. Alors, on va essayer de voir maintenant, de prendre en considération au travers des Saintes Écritures chaque couplet, parce que là, la chanson est composée dans tout et pour tout de 3 couplets. Et nous allons commencer avec le premier couplet, et je vous propose d'écouter juste le premier couplet, et après on passe aux commentaires. Venons d'écouter la première partie de la chanson, l'autre Laurent. Dans cette première partie, l'auteur se met à la disposition de Dieu. Alors ma question est la suivante, de quelle manière il le fait?
Bon, là, la chanson nous montre clairement l'auteur qui dit à Dieu, prends-moi et utilise-moi. C'est-à-dire, c'est une soumission. En d'autres termes, c'est un acte de consécration. Du don de soi, et quand on le fait, c'est pour devenir en réalité la propriété privée et exclusive de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un, après son salut, après avoir accepté le message du salut, donné sa vie à Jésus, nous le disons comme cela, donne ta vie à Jésus et autres, mais un point, un temps viendra dans la vie du chrétien où il prendra la résolution de faire du Seigneur son Seigneur, si vous permettez la redondance. C'est-à-dire que quoi? Vous prenez une décision solennelle, une décision que vous n'aurez pas à révoquer après, de devenir la propriété privée et exclusive de Dieu. C'est quand on prend cette décision, c'est la capitulation de notre âme qui choisit de se soumettre à la volonté de Dieu. Et cette décision, elle n'est pas facile. Parce que lorsque nous prenons la décision, Dieu nous prend au mot. Et nous traitera sur la base de cette décision prise. Pourquoi? Dieu n'utilise que ce qui lui est consacré. Lorsqu'un homme se donne à Dieu, lorsqu'une femme se donne à Dieu, Dieu prend cet homme ou cette femme, et parce que la personne est pendant longtemps a été dirigée par son moi, Dieu va maintenant mouler, briser, effacer cet aspect de l'être. Hein, l'ego, Dieu va travailler son ego pour le rendre apte à être un esclave à vie. D'accord? C'est dès ce moment que Dieu va décider d'utiliser la personne en son temps et à sa manière. Vous n'allez pas venir donner des ordres à Dieu pour lui dire comment il va vous utiliser, ni quand il va vous utiliser. C'est là où vous verrez la différence entre ceux qui disent Seigneur, 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 Seigneur. Ils le disent. Mais ça, c'est la parole, ça. Et à côté, il y a ceux qui se soumettent à la volonté du Seigneur. D'accord? D'une manière générale, tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Mais de façon plus précise, il est des gens qui ont découvert la volonté de Dieu pour leur vie. Et une fois que la volonté a été révélée, ils ont pris sur eux de se soumettre à la volonté. D'accord? Et la volonté de Dieu, dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire, se présente sous deux ordres. Il y a la volonté de Dieu d'une manière générale, c'est dans les Écritures pour tous les chrétiens. D'accord? Mais il y a la volonté de Dieu particulière.
Que chacun reçoit.
Oui. Et cette volonté de Dieu générale est révélée dans la parole de Dieu. La volonté particulière pour ma vie, pour ta vie, elle est révélée par l'Esprit qui se sert de la parole de Dieu. Voyez, donc il y a une certaine nuance à ce niveau. Donc la volonté de Dieu particulière qui concerne un individu lui est révélée par Dieu, par le ministère de l'Esprit de Dieu. Vous prenez l'Ancien Testament, il y a plein de personnages qui ont rencontré Dieu et Dieu leur a signifié quelle est sa volonté pour leur vie. Vous commencez par Abraham, Moïse, les prophètes et tout le reste. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Saul de Tars ne savait rien de Jésus, mais Jésus s'est révélé à lui et lui a révélé sa volonté pour sa vie. Maintenant, il revient à la personne qui a reçu cette révélation de se soumettre. Parce que là, la volonté, quand elle est particulière, elle peut être parfaite et souveraine d'un côté ou permissive. Permissive et sujette au jugement de Dieu. Je m'explique. Quand la volonté est parfaite et la souveraine, ça veut dire Dieu t'a dit ce qu'il veut de ta vie, ce qu'il veut faire de ta vie. Et tu te soumets à ça. Toute ton existence sera caractérisée par cette soumission à cette volonté révélée. Maintenant, lorsque la volonté est révélée et que l'individu, pour une raison ou pour une autre, refuse de se soumettre à sa volonté, à la volonté de Dieu, maintenant veut imposer sa volonté en tant qu'individu à Dieu, à un moment donné, Dieu va te dire, ok, vas-y, et tu vas croire que c'est sa volonté pour ta vie. D'accord? Il a révélé sa volonté claire et nette à Balaam. Tu n'as rien à faire avec cette délégation qui est venue te voir. Mais parce que le monsieur, il a l'argent et oui, tout ça, à un moment donné, Dieu dit, vas-y. Et il croyait que Dieu était avec lui. C'est pour cela que l'ange a voulu le tuer. C'est son âme qui l'a aidé, sinon il allait mourir. D'accord? Donc, et quand vous étudiez les Écritures, vous allez voir. Lorsque nous avons des idoles dans notre vie, souvent, c'est ces idoles qui constituent le point la pierre d'achoppement pour accepter la volonté révélée dans notre vie. Quelque part dans les Écritures, il est dit, Éphraïm est attaché aux idoles. Laissez-le. Ça, c'est la volonté permissive. Ça veut dire, à un moment donné, il faut juste qu'on te laisse à toi et tu vas juste aller pensant que Dieu est en train de faire son œuvre dans ta vie. Donc ici, l'auteur dit que je sois acceptable et agréable à toi. Donc là, la personne se soumet à Dieu. Et quand on prend par exemple l'image dans l'Ancien Testament, le peuple est arrivé au désert, Dieu sur la montagne a parlé à Moïse, il faut avoir l'arc de l'alliance et autres. Et on regarde tout autour, voilà, on trouve du bois d'acacia, n'est-ce pas? Qui a été fendu, coupé, et puis on a arrangé, enduit d'or, et on en a fait l'arche de l'alliance. Vous prenez ça comme une image, par exemple. C'est vrai que le bois d'acacia n'est pas un être humain. Mais ce bois d'acacia-là a été utilisé par Dieu, et dès cet instant, vous allez voir que la destinée du bois d'acacia, parce que le bois d'acacia dans le désert, lorsque ça va s'assécher, ne servira pas à grand-chose, on va couper, on va mettre du feu, on va l'utiliser pour faire du fagot de bois, n'est-ce pas? Mais ce bois d'acacia a été utilisé par Dieu et c'est rentré dans la confection de l'arche de l'alliance. Ce bois d'acacia a quitté le désert, est entré sur la terre promise, a été au centre de l'adoration du peuple d'Israël pendant des générations. Et ce bois d'acacia n'a jamais été répliqué, c'est-à-dire que on n'a plus fabriqué une autre arche de l'alliance. Ça veut dire quoi? La destinée du bois d'acacia, là, a changé complètement. C'est ce qui arrive lorsque vous vous soumettez à Dieu. Quand il entre dans votre existence et vous révèle sa volonté, vous vous soumettez à cette volonté, vous verrez qu'il y aura une sorte de gouffre entre vous et votre passé. Même chose pour Abraham. Il n'est plus retourné dans la maison de son père. Plus jamais. Même chose pour Élisée. Il n'est plus retourné au champ. Tu vois un peu, donc c'est quelque chose comme cela. Donc là, ça permet à la personne de pouvoir marcher mieux contrôlée par cette volonté qui lui est révélée. Mais quand la personne résiste à la volonté de Dieu, ou même parvient même à rejeter la volonté de Dieu, cette personne n'aura plus sa place dans le royaume de Dieu. Donc ceux à qui Dieu s'est révélé, pour une raison ou pour une autre, qui ont refusé et qui ont fait autre chose que ce que Dieu leur a demandé, à la fin de leur existence, il va les rejeter. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la rébellion ou la désobéissance. Ce à quoi il t'a appelé, c'est ce à quoi il t'a appelé. Si tu choisis un autre chemin, là, tu es ton propre chef et tu n'auras pas de place dans le royaume. Dans, l'apôtre Paul a compris ça quand il dit, par exemple, Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice est naturellement mort, n'est-ce pas? Hein, c'est ce qu'on a tué. Mais ici, c'est un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Vous considérez comme sacrifié à Dieu sur l'autel de la consécration. Vous êtes donné, votre corps ne vous appartient plus, mon corps ne m'appartient plus. Un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, aussi longtemps que vous dites que vous êtes chrétien, que vous ne vous êtes pas offert à Dieu sans poser des conditions, là, votre culte est irraisonnable. Il ne va pas l'accepter. Tout ce que vous allez faire, il ne va pas l'approuver. C'est ça l'iniquité devant sa face. Et il dit maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que derrière ce siècle présent, il y a un esprit qui s'oppose à Dieu. Lorsque quelqu'un se conforme au siècle présent, il devient alors ennemi de Dieu. C'est ce que Jacques a expliqué. Et il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Ça veut dire que aussi longtemps que vous ne vous êtes pas donné à Dieu, là, votre intelligence ne sera pas renouvelée, puisque avant de connaître Christ, notre intelligence est obscurcie par l'activité, l'influence des puissances des ténèbres. Mais quand je me donne à Dieu, que je lui appartiens de façon exclusive, je suis sa propriété privée, mon corps lui appartient, là, en ce moment, Dieu devient plus réel pour moi. Je ne suis plus à la périphérie, et là, il dit, afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu? Il y a plein de gens qui disent, oh, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé. Est-ce que tu t'es consacré à lui? Est-ce que tu as permis que Christ soit le Seigneur de ta vie? C'est lui qui détermine. L'esclave ne dit pas à son Seigneur ce qu'il veut faire. C'est ce qu'on lui dit qu'il veut faire. C'est pourquoi Saul de Tarse a dit à Jésus sur la route du Damas, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me mets dans la posture d'esclave. Que veux-tu que je fasse? Il dit, va dans la ville. On te dira. On ne lui a même pas expliqué. On dit, on te dira ce que tu vas faire. Donc là, c'est important de comprendre ces choses. Et le problème de plusieurs, ce défi, c'est est-ce que vous appartenez à Dieu ou vous appartenez au monde? C'est vraiment important.
Oui, l'auteur ici, il introduit, il dit clairement, hein, comme tu l'as dit, prends-moi et utilise-moi, Seigneur, comme un instrument d'amour. Et il dit que je sois acceptable, que je sois agréable à toi. Je n'ai qu'une seule raison de vivre, c'est de vivre pour toi. Rien d'autre n'en vaut la peine. Il s'est donné complètement.
Oui.
Il commence déjà, prends-moi et utilise-moi. Ce que tu veux faire de moi, fais-le. Fais-le. Utilise-moi comme tu l'entends.
Là, en ce moment, c'est un tournant décisif de notre vie. Tu sais, il y a beaucoup de ces cantiques, comme l'autre là, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. C'est vrai que la personne qui a chanté ça a dû prendre ses décisions à un moment donné. Mais lorsque ça devient un acte religieux où on ouvre un livre de cantiques, on chante ça juste comme ça, vous pensez que ça influence Dieu, ça impressionne Dieu? Non, il sait que ton cœur n'est pas ne s'aligne pas sur ce que dit cette chanson. Mais lorsque quelqu'un prend la résolution sans être contraint, là il faut aussi le souligner, sans être contraint, la personne prend la résolution de se donner à Dieu. Dieu honore cette décision-là. Je vais en parler un peu plus loin quand on va toucher les autres
aspects de la chanson. Très bien. On va alors, comme tu l'as dit, tu l'as déjà annoncé, on va passer à l'étape suivante, au refrain. Et là, on va réécouter le chant One Life jusqu'à la partie refrain. Je vous laisse avec la chanson. Les paroles sont simples, mais très significatives. Hein? Mmh. Alors, quelle est l'idée essentielle du refrain?
Là, c'est une... J'en avais parlé déjà. Et ici, c'est des questions du don de soi. Parce que si vous voulez comprendre le refrain, vous prenez les derniers vers pour remonter et mieux cerner. Dans le dernier vers, il a dit « Je suis à toi, Seigneur ». Dès ce moment et pour l'éternité. Mmh. D'accord? Mmh. Alors, sur cette base, vous remontez maintenant. Seigneur, je veux te connaître davantage. Mmh. Parce que je lui appartiens, je suis en droit de le connaître. Quel est le serviteur qui ne connaît pas son maître? D'accord? Avant de chercher à mieux le connaître, il faut que tu te laisses à lui. Quand Dieu a rencontré Moïse, ils ont eu la première échange, première discussion et autres, Moïse a dû se soumettre à Dieu. On lui dit, enlève tes souliers, il a enlevé. Et ce que Dieu a dit, il a fait. Et ensuite, maintenant, Dieu l'a envoyé. Et cet acte de consécration que Moïse a posé, quand vous prenez la vie de Moïse et la vie d'Aaron, vous allez voir la profondeur de l'intimité de Moïse quand vous comparez à Aaron. D'accord? Plus vous vous livrez à lui, plus il se révèle à vous. Il n'y a pas d'autre alternative. Si vous choisissez de vivre à la périphérie de la vie chrétienne, vous allez être juste un bon religieux, vous appartiendrez à une communauté religieuse, vous êtes dans une église, vous faites telle ou telle activité, l'idée même peut vous venir sans que vous ayez pas peur, vous n'avez pas peur de vous servir de Dieu. C'est ce que plusieurs font aujourd'hui. Les gens se servent du nom de Jésus pour atteindre des objectifs qui se sont fixés. Et ça, c'est pour leur ego. Les gens se servent du nom de Dieu pour se donner de quoi? De l'importance. Bien de choses se font en son nom. Il a déjà donné l'avertissement. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, vous le dites, mais vous n'êtes pas mon esclave. Vous avez mon nom à la bouche, mais vous n'êtes pas ce que vous devriez être pour moi. Donc ici, dans cet acte de consécration, plus la personne avance, plus le Seigneur se révèle à cette personne.
Très bien. L'autre.
D'accord?
Oui.
Là, en ce moment, j'ai déjà parlé d'Élisée. Élisée, elle a fait quoi? Elle a pris une décision. Ça dit que vous posez c'est un vœu sacré que vous faites. Ce mot-là, le mot vœu, beaucoup de gens prennent ça à la légère. Ce vœu est sacré. La décision de suivre Jésus, c'est sacré. Si vous revenez sur votre décision, vous choisissez de retourner en arrière, là, la Bible vous dira, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et donc ici il dit, c'est quoi, un pas décisif. Vous venez de franchir le point de non-retour. C'est ça, devenir disciple. On ne se lève pas un beau jour pour dire, ok, j'ai servi le Seigneur pendant 20 ans, maintenant je vais à la retraite dans l'œuvre de Dieu. Oui, pas souci de commodité, on peut vous dire, oui, vous êtes fatigué physiquement. Ça ne veut pas dire que vous cessez d'être disciple. Quand on est disciple à vie. Jusqu'à ce que le Seigneur nous libère de cette charge-là et on s'en va. Pourquoi? Le vœu est important. On en parle plus aujourd'hui. Dans l'église primitive, les gens, quand tu veux devenir chrétien, c'est devant une foule que tu prends la résolution de devenir disciple de Christ, de lui appartenir. Dans Juges, dans l'histoire de Jephthé, il y a un élément que je veux faire ressortir. Dans l'histoire de Jephthé, il combattait les fils d'Amon et il a pris une résolution et il a dit, ah, bon, ok, Dieu, si tu me donnes la victoire sur les fils d'Amon, quand je vais revenir, la première personne qui sortira de la maison, je vais te le consacrer. Je vais l'offrir en holocauste. Vous savez que Dieu n'accepte pas le sacrifice des êtres humains. Ça, il faut bien le comprendre, pour mieux comprendre le texte. Et dans le chapitre 11, alors il est revenu et c'est sa fille unique qui est sortie à sa rencontre. Et quand il a vu ça, il a compris. Il dit, ah, ma fille, tu ne peux pas savoir tous les problèmes que tu me crées aujourd'hui. Mais il a dit quelque chose qui est important. Il dit, Juge 11, verset 35, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je ne puis le révoquer. J'ai pris une décision sacrée. Je ne vais pas trouver des arguments pour revenir en arrière. Donc cette décision-là, quand nous la prenons devant Dieu, elle n'est pas prise à la légère par Dieu. Non, c'est un choix que vous faites sans contrainte en votre âme et conscience. Pourquoi? Déjà dans l'Ancien Testament, nombre 30 plutôt, verset 1 et 2, Dieu dit, Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Qu'est-ce qu'il ordonne? Verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et ça, les enfants d'Israël le savaient. C'est pourquoi le psalmiste dira, quand David a demandé à Dieu qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui va séjourner dans ta présence, Dieu lui a donné un certain nombre de caractéristiques. Et au nom des caractéristiques, il dit, dans le verset 4, cette personne regarde avec dédain ce qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. En d'autres termes, s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Et s'il a juré fût-ce à son dommage, il ne change rien. C'est à cela que le Seigneur fait allusion quand il dit que votre oui soit oui.
Et que notre
non soit non. Donc, c'est une personne-là qui s'est engagée devant Dieu ne viendra pas demain pour démissionner de par son engagement. D'accord? Après la consécration, lorsque quelqu'un se consacre, ça c'est la part de l'homme, quand on parle de sanctification, c'est quand je décide de me donner à Dieu et que je suis sincère dans ma résolution, Dieu connaissant mon cœur, Dieu maintenant en réponse me sanctifie. Il approuve ma consécration, il me sanctifie et je suis mis à part pour lui. Et j'expérimente une autre réalité dans ma marche avec Dieu qu'on appelle la purification, la pureté du cœur. Cette transformation qui s'opère, donc, là on parle de vocation, on trouve ça un peu partout dans notre société. Aujourd'hui, il y a des institutions religieuses qui ont forcé des hommes et des femmes à entrer dans ce genre de faire des démarches et ils ont des problèmes. Un homme est viril et vous désignez cet homme-là de traiter avec des hommes, de traiter avec des femmes, mais de garder sa virilité. Et là, on entend maintenant parler de quoi? De pédophilie et de désordre. Il faut libérer ces hommes-là. Ils n'ont pas pris cet engagement en âme conscience. Ils se sont soumis à un dogme. Et la nature les a rattrapés. Mais lorsque la personne prend la résolution, comme Paul a pris cette résolution, il a pris la résolution de ne pas prendre de femme. Il a dit aux apôtres et aux autres, vous pensez que nous aussi, là, en tant qu'apôtre, on n'a pas le droit de prendre une femme comme les apôtres l'ont fait?
Mais on a pris une décision et on marche dans cette décision. Jésus dit, il y a des gens qui se rendent eunuques à cause du royaume. Maintenant, pour tous les frères et sœurs qui ne sont pas mariés, aussi longtemps que vous n'êtes pas encore mariés, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous ne devez pas faire avec votre corps dans le domaine sexuel. Vous avez vos organes génitaux. Tout ce que vous pouvez faire avec, Dieu vous l'autorise. Vous pouvez uriner avec vos organes génitaux. Mais vous ne pouvez pas coucher entre vous parce que c'est la tendance maintenant. Les gens sont en fiançailles, les pasteurs, les courage, il faut qu'ils s'essayent pour voir, non? Non, c'est une abomination, vous ne pouvez pas détruire le corps de, le temple de Dieu, et venir vous présenter devant les gens pour dire qu'on veut vous bénir pour votre mariage, ou non, si vous fêtez la Pâque avant, chose là, mais personne ne vous bénira, personne ne va consacrer ce mariage là, donc c'est important. Aujourd'hui les chrétiens prennent beaucoup de choses à la légère. Cette décision de l'auteur là, d'appartenir corps, âme et esprit à Dieu, donc ici il dit, pour le temps et pour l'éternité. D'accord? Nous restons dans cet état jusqu'à entrer dans l'éternité. C'est sur cette base que Jésus nous considère comme son épouse, sa fiancée. Et il viendra chercher sa fiancée pour aller célébrer les noces au ciel. Si vous vous disqualifiez vous-même pas une vie en deçà de ce que le Seigneur demande, vous ne pouvez pas partir quand il va revenir.
Très bien. On va entamer aussi le second couplet, hein, c'est vrai que dans le refrain il est dit quelque part dès le début, le monsieur reconnaît ou bien le docteur reconnaît qui ne connaît pas encore Dieu. Il le dit, hein, au début, Seigneur, je veux te connaître davantage.
Ouais.
Know you more. Mm-hmm. Je veux te connaître davantage. Il reconnaît qu'il ne connaît pas encore Dieu. Ça, c'est vraiment important.
Cette connaissance, elle ne prendra pas fin ici-bas.
Pour toute aussi l'éternité. Aussi longtemps que nous vivrons ici-bas, cette
connaissance... Non, elle ne prendra pas fin ici. Mais quand on va rentrer dans l'éternité, on continuera.
Pas le connaître.
Oui. Ce n'est pas une connaissance qui a quoi, une limite. Non. Elle s'approfondit. Pendant que nous sommes ici-bas, lorsque nous découvrons le Seigneur sous un jour nouveau, c'est pas que c'est le Seigneur qui est comme ça, mais c'est nous qui changeons. C'est-à-dire, quand il nous montre un autre aspect de sa personne, c'est un reflet de notre état, pour que nous puissions le connaître sous cet angle-là. C'est ce qu'il a toujours fait dans l'Ancien Testament, où Abraham l'a connu sous un angle donné, Isaac aussi, Jacob aussi, Moïse aussi, ainsi de suite. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous connaissons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, à travers Jésus. Et c'est la fonction du Saint-Esprit de nous permettre de connaître. C'est pourquoi l'auteur dit davantage. Donc, vous ne verrez pas un jour, quelqu'un va dire, OK, je suis arrivé au bus stop, voilà, j'ai connu Dieu. Non, c'est une expérience qui est continuelle.
Très bien. On va écouter le deuxième couplet et on va passer aux commentaires juste après. Help me not to waste my life. On those things that matter not, let me live within your plan and your purpose for me, Lord. And all I have is yours to you, and where you send me, I will go. If no longer à l'instant, nous venons d'écouter le second couplet. L'autre, le pasteur demande à Dieu de l'aider à ne pas gâcher, hein, sa vie sur des choses inutiles. Comment faut-il s'y prendre?
Oui, mais là, c'est la fonction du Saint-Esprit. De commencer par nous montrer des choses qui, apparemment insignifiantes, mais qui prennent de la place dans notre cœur. Parce que Dieu, il nous veut à lui et à lui tout seul. Il ne veut pas de rival. D'accord? Cela, c'est ce qui est arrivé à Abraham. Vous savez, un homme qui, naturellement, ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord? Il en a eu avec sa domestique. Ça, c'est pas ce que Dieu voulait. Et donc, sa femme, qui n'était plus en âge d'avoir un enfant, voilà, ils ont finalement eu l'enfant que Dieu leur a promis. Vous imaginez un peu cet homme-là, chaque jour quand il se lève, il regarde Isaac, Isaac mon fils, le fruit de mes entrailles, le fruit de ma vigueur, tout ça là. Donc, à un moment donné, sans qu'il s'en rende compte, son attachement à Dieu a commencé par souffrir de constance. C'est là où Dieu lui a dit, quand vous relisez le texte, Dieu lui dit, consacre-moi, sacrifie-moi ton fils. Et Dieu va mettre l'accent en disant, ton unique. Ton unique. Ça veut dire que Isaac n'est Ismaël n'est pas dans le programme ici. Donc ceux qui racontent des histoires sur Ismaël là n'ont rien compris. Dieu est clair dans ce qu'il réclamait auprès d'Abraham. Ton unique. L'enfant là qui est venu et qui va maintenant me rendre jaloux vis-à-vis de cette intimité que tu avais avec moi avant. Donc, c'est ce qui se passe. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, la consécration sera testée. Dieu va tester notre niveau de consécration. Le diable de son côté, lui, son objectif, c'est de nous tenter pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Ici, l'auteur dit des choses inutiles. Des choses superficielles, des choses qui sont non essentielles, qui n'entrent pas en droite ligne avec l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Tu sais, quand dans cette marche de consécration, il y a des choses que Dieu va nous exiger, qui nous refusera, non pas que c'est du péché, hein, non. Ce niveau-là dépassait le niveau de péché. Des choses, certaines choses, il va te dire, ça, je ne veux plus que tu fasses ça. Cette façon de parler-là, je ne veux plus que tu parles comme ça. Je veux plus que tu ailles dans tel endroit. Donc, c'est là où on vit la réalité de la vie consacrée. D'accord?
Pourquoi? Parce que... On devient vraiment esclave.
Oui! Parce que il veut, quand il veut parler, il veut pas te demander la permission. Il va parler directement au travers de toi. Quand il veut agir, il va agir. Donc, il te veut disponible. Et pour que tu sois disponible, il faut que tu te soumettes à lui. Donc, il va toucher ces différents domaines. L'auteur ici dit, aide-moi. L'aide de Dieu est indispensable. Si nous devons rester focalisés sur la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que de temps à autre, l'ennemi va placer certaines choses là pour nous distraire. Il y aura des distractions. Il y aura des événements, des individus qui vont paraître à un moment donné dans votre vie. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous distraire de ce à quoi Dieu vous a appelé. Donc c'est important de comprendre cela. Et tout ce qui est hors de la volonté de Dieu, révélé pour ta vie, pour ma vie, cette chose est inutile. Cette chose, elle est vaine, c'est une vanité. Cette chose, elle est futile. Donc, il est important alors de savoir qui nous sommes. En tant qu'individu, en Christ, pourquoi il m'a appelé? D'accord? Là, si je prends le cas de Paul, vous comprenez, quand il dit j'ai été crucifié avec Christ, c'est une expérience qu'il a faite, il a compris la portée de ce pourquoi Jésus est venu, et plus tard il va dire, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère, de révéler en moi son fils, je ne peux consulter la chair et le sang. Ça dit qu'après sa nouvelle naissance, quand Dieu lui a révélé, toi j'étais destiné à aller vers les nations, à prêcher la bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que je lui a dit? Dieu lui dit, allez, il faut que tu te sépares de ceux que tu connaisses. Et là, il s'est rendu en Arabie. D'accord? D'un seul coup, on n'entendait plus parler de lui. Ça, c'est le temps de silence. Ça arrive au véritable serviteur de Dieu. Il vous appelle, vous savez qu'il vous a appelé, mais après, il y aura un temps de silence. Un temps de brisement, c'est la période de désert, de traversée de désert. Après, il est revenu. Et quand il est revenu, dans sa marche avec Dieu, il a dû lui-même décider, comme l'auteur est en train de le dire, de se débarrasser de certaines choses. Et Philippiens chapitre 3, moi, circoncis, le huitième jour, parce que circoncis le huitième jour, il est un juif. D'accord? Le signe extérieur, c'est la circoncision pour les mâles. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et là, ce sont c'est des éléments importants pour un juif. Mais lui va dire, à cause de Christ, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça, premièrement, c'est à cause de Christ. Quand il va avancer un peu, il va dire maintenant, à cause de l'excellence de la révélation qu'il a de Jésus, il regarde toute chose maintenant comme de la boue. C'est-à-dire, plus vous avancez dans cette intimité avec le Seigneur, plus ce qui est du monde là, vous voudrez pas que cette chose-là vienne entacher votre intimité avec Dieu. Donc, quand vous voyez des gens avec qui on doit dire, ah, mon frère, il faut abandonner ça, le monde est ça, ceci est à la mode, un chrétien ne peut pas faire ça, il va chercher à argumenter, vous savez qu'il n'est allé nulle part avec Christ. Parce que si vous avez fait le premier pas avec Christ dans le domaine de la consécration, il y a des choses qui se passent dans le monde, vous ne voudrez pas que cela vienne trouver une place dans votre vie. En tant que frère en Christ, en tant que sœur en Christ, il y a des choses que vous mettez dans votre vie, sur votre corps là, que Christ ne va pas approuver parce que ces choses ne font pas partie du plan original de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez rendre meilleur? Dieu vous a créé tel qu'il est. Il a voulu. S'il a voulu que vous soyez, vous ayez des griffes de léopard, il vous aurait vous donné ça. Si vous vous fabriquez ces choses que vous mettez, là vous êtes en train d'errer. Quand on est chrétien là, il y a une distinction entre notre vie, même notre corps là, ça appartient à Christ. Donc, on ne va pas faire comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est important de comprendre ces choses. L'apôtre Paul n'a vécu que de cette façon. Jusqu'à la fin de sa vie, quand il a compris qu'il devait mourir, il a dit, bon, d'accord. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie si elle m'était précieuse. Ça, c'est la consécration. Pourvu que j'accomplisse ma course. Il y a une course pour Paul, il y a une course pour Timothée, il y a une course pour Démas, il y a une course pour Pierre, il y a une course pour Jean. Chacun a sa course. Et que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il connaissait le plan de Dieu pour sa vie. Et quand il va dire, il va aller loin, il dit, je suis prêt à mourir. Non seulement être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. Donc, c'est pour cela que le jour on dit, on va te tuer en prison. Il a envoyé une épître à Timothée pour lui dire, écoute, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La course, ma course personnelle, je l'ai achevée. J'ai gardé la foi. Alors, quelle est la conviction? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là. Vous voyez, il a été aussi nouveau converti comme nous. Mais il a progressé dans sa consécration. Et c'est de cela qu'il est question dans ce que l'auteur est en train de nous dire dans cette chanson.
On va dès à présent aborder le dernier couplet et on le fera un peu plus rapidement. On y va. L'autre Laurent, dans cette partie de la chanson, l'auteur prend la décision de suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Alors, quels sont les points saillants de sa décision?
Bon, là, il dit, il a pris la décision, ça c'est tout à fait normal, de suivre jusqu'à la fin. Je me suis chargé de ma croix. Chargé de ma croix, parce que le Seigneur l'a dit, chaque disciple aura apporté sa croix. Mais avec l'influence de l'évangile de prospérité aujourd'hui, les gens pensent que la croix, c'est l'œuvre du diable. On n'arrive pas à faire la distinction entre la croix que je dois porter en tant que disciple, l'adversité qui est un moyen que le Seigneur utilise pour nous modeler davantage, et l'attaque des puissances des ténèbres. Aujourd'hui, tout ce qui semble aller contre nos petits désirs et desiderata, on se ligue contre, on lutte contre, à cause du type d'enseignement que nous recevons. Où on nous a fait croire que voilà, bon, écoutez, quand vous devenez enfant de Dieu, vous êtes un prince charmant, une princesse, et Dieu doit obéir à vos moindres désirs, et il est au bon soin, et vous... Non, c'est pas ça. Nouveau Testament, allez relire. On est en train de vous mentir. Où on vous fait croire que Dieu vous a appelé à ne pas être quoi? Vous n'avez pas de responsabilité vis-à-vis de Dieu. Vous êtes au bon soin de Dieu. Il ne fait que vous bénir, il ne fait que vous bénir, il ne fait que vous bénir. Non, c'est pas ce que l'Écriture dit. Jésus a clairement dit, si quelqu'un veut venir après moi, Jésus va où? Il va passer par le calvaire avant d'aller au ciel. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a plusieurs qui n'ont pas fait ce pas-là. Ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils prennent des décisions en leur âme et conscience, même si la décision qu'ils sont en train de prendre est contraire à la parole de Dieu. Ils disent non, là c'est moi-même. Je suis né comme ça, je vis comme ça et je décide ce que je veux de vous. Tu es en périphérie, tu n'es pas encore dans le royaume. Donc là il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. D'accord? Qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suit. Ici, l'auteur est en train de dire débarrasse-moi de toute chose qui me disqualifie comme un vase. Qu'est-ce qui me disqualifie comme un vase? Et là, il faut demander au Saint-Esprit, il va te montrer. Ce peut ne pas être un péché. Mais quelque chose qui, dans ta vie, prend de l'importance, mais qui te disqualifie pour être un vase qu'il va utiliser. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils utilisent Dieu, que ben, Dieu ne les utilise pas. Hein? Donc, là, c'est important de comprendre cela. Et il dit, à cause de cette foule de témoins, ceux qui nous ont dévancés dans la foi, là, nous, si nous prenons en compte, ah, des gens ont marché comme ça, il faut que je puisse aller. Donc, sur cette base-là, nous devons nous débarrasser de tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Faites pas attention, vous allez tomber dans le péché. Donc, c'est important de le faire. Et quand vous le faites, vous apprendrez à, numéro un, à vous éloigner de l'iniquité. Numéro deux, à éloigner l'iniquité de vous. C'est là où vous serez amené à vous séparer d'avec certaines personnes. Ces choses, quand on le dit, vous allez penser que non, est-ce que ça aussi c'est important? Eh bien, monsieur du nom de Howard Pittman. Howard Pittman, Dieu l'avait appelé au ministère. Et il savait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est aux États-Unis, bien entendu. Il s'est enrôlé dans la police américaine. Et il a vécu comme ça. Maintenant, pour pouvoir apaiser sa conscience, quand il sort un peu, il distribue les traités au coin des rues. Et il pense que ce faisant, Dieu sera apaisé. Jusqu'à ce qu'un jour, il fait une crise et il meurt et des anges sont venus. Il dit, Dieu veut te voir. Il arrive devant le trône et dit, toi là, tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Parce que ce à quoi je t'ai appelé, tu l'as rejeté. Tu as pensé que la distribution des traités là, c'est ce à quoi je t'ai appelé. Et il a été obligé, quand il est revenu de ce côté, de se reconsacrer à Dieu. Et il est rentré, bien que Dieu, il est retourné dans le ministère. Frères et sœurs, lorsque la volonté de Dieu pour votre vie vous sera révélée, dès cet instant, vous serez engagé vis-à-vis de Dieu. Si vous rejetez cette volonté, vous allez finir votre vie ici. À la dernière minute, vous allez pleurer parce que vous n'ouvrez pas ce Dieu qui vous a appelé. Il n'y a pas dans la maison de Dieu de place pour les rebelles ou bien pour les gens qui veulent faire leur propre volonté. Donc, l'auteur a bien compris cela. C'est pourquoi il dit, s'il y a des choses qui me disqualifient pour être un vase, révèle-moi ces choses. Je vais m'en débarrasser.
Voilà. S'il y a des choses qui me disqualifient pour être un véritable vase, Seigneur, révèle-les-moi pour que je puisse m'en débarrasser. Ça sera la phase de conclusion pour cette émission. Nous avons étudié dans l'émission de ce jour, dans le numéro de ce jour, One Life, proposé par le pasteur, le docteur Paul Enetche. Alors, on se dit au revoir et à la semaine prochaine, si le Seigneur tardait à revenir. Nous vous laissons avec le chant. Bye bye et à la semaine prochaine. Nothing else.